Nous allons continuer. Méditation sur l'espérance. Avant de continuer, je dis, vous voyez, je voudrais vous signaler que maintenant nous allons commencer dans cette deuxième partie de la retraite à rentrer, à comprendre, à regarder comment l'espérance doit être vécue dans l'Église de l'instant présent. C'est sûr, c'est toujours la même espérance. L'espérance, il y a une doctrine de l'Église sur l'espérance. C'est celle que nous avons à méditer hier, avant-hier. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Quel est le sujet de l'espérance? Quel est l'objet de l'espérance? Quel est l'acte d'espérance? Quelle est la mystique de l'espérance? Quelle est la spiritualité de l'espérance? Ça, c'est valable. C'est la tradition. Et il faut la garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle opère? Qu'est-ce qu'elle fait au fur et à mesure dans notre cœur? Vous voyez? C'est autre chose, peut-être. Et c'est pour ça que comme... Moi, je vous propose de regarder, puisqu'on vit, nous faisons un recueillement pour essayer de rentrer dans une vision, de comprendre, même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Mais on l'entend. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. Si on l'entend, c'est bon. On l'entend, ça suffit. Ne comprenez rien, je vous en supplie. Entendez, que ça rentre. Je comprends rien. Excellent. Entendons-le. Vous savez bien, celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Il n'a pas dit qu'il comprenne. La compréhension, même dans la vision béatifique, vous l'avez entendu hier, on n'aura pas la compréhension de Dieu. Mais on le verra. Et là, c'est pareil, vous voyez. Nourrit, et du coup ça donne son fruit. L'espérance donc consiste à vivre du travail du bon Dieu, opus Dei. C'est plus notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Je travaille plus pour Dieu, fini pour mes œuvres. C'est Opus Dei, c'est Dieu qui travaille en moi. Je laisse Dieu travailler. Et le travail, vous avez regardé les 6 jours, les 7 jours de la création, le 6e jour, c'est le travail suprême du Créateur, l'homme et la femme, le Christ et l'Église tout entière. En une seule chair. Et c'est le dernier travail de l'Église, c'est le 6e jour. Et dans l'Apocalypse, et c'est ça que le Saint-Père nous demande de regarder, de nous préparer. Et ce à quoi il nous forme par ses enseignements et par son exemple, et ce à quoi l'Immaculé aussi aide certains à se préparer par ses enseignements et ses exemples, et ce que l'Esprit Saint surtout aide dans le cœur des saints comme Marthe à vivre déjà, c'est de cette grâce suprême du travail final de l'Église dans la révélation. Ça se lit dans l'Apocalypse. Je n'aurai peut-être pas le temps de dire avec vous ce que la révélation elle-même nous enseigne sur la manière très précise de vivre de l'espérance dans le travail final de l'Église des derniers temps. Mais je vous signale quand même, surtout que nous aurons des moments de silence, essentiellement demain, long, je vous demande de prendre votre Bible et de lire en faisant rencontrer les textes entre eux, d'écrire, de faire un travail, faites des colonnes, des correspondances, des recoupements entre ce que l'Apocalypse dit dans le travail de la sixième église, chapitre 2, porte ouverte, on vient de le lire, chapitre 2, verset 7 à 13. Chapitre 2, verset 7 à 13, Apocalypse. Chapitre 3, verset 7 à 13. Le sixième sceau, chapitre 6, verset 6 plus 6, ça fait 12. Sixième sceau. La sixième trompette, chapitre 9. Verset 13. Le sixième signe, chapitre 14. Verset 14. La sixième coupe, chapitre 16, verset 12. La sixième destruction du mal, chapitre 19, comme par hasard, verset 19. C'est tout de suite là, le clignotant rouge. 19-19. C'est vrai. La sixième témoignage éternel, chapitre 22, verset 1. Il y a sept sixièmes. Si vous les mélangez bien les uns avec les autres, vous avez le travail de l'Église. La sixième Église. Chapitre 3, versets 7 à 13. Le sixième sceau. Chapitre 6, versets 12 et suivants. La sixième trompette. Chapitre 9, verset 13. Le sixième signe. C'est extraordinaire, le sixième signe. Chapitre 14, verset 14. La sixième coupe. Chapitre 16, verset 12. La sixième destruction définitive du mal. Chapitre 19, verset 19. C'est la destruction définitive de l'Antichrist, ça. C'est à nous. C'est nous qu'on va faire ça, tu vois. Chapitre 21, verset 1, le témoignage éternel de l'Église, la sixième victoire. Et c'est dès cette terre, ça. Hein? Chapitre 22, verset 1. Mais on y reviendra. De temps en temps, je ferai quelques petites interprétations pour que vous puissiez avoir le... Oui, ben c'est le témoignage. C'est à la fin de l'Apocalypse. Hein? Vous avez le jugement dernier. Les sept victoires de la fin. Jugement dernier, le monde nouveau, la Jérusalem céleste, les élus, l'ange, Jésus, l'Esprit et l'Épouse qui disent viens. Le sixième, c'est Jésus. Je viens bientôt. Oui, je viens. De toute façon, vous pouvez tout lire. Personne ne vous empêche de lire toute l'Apocalypse. Mais si vous voulez faire un travail sur le travail final de l'Église, c'est le sixième. Quand c'est la première, deuxième, troisième, saut, trompette, église, etc., vous verrez qu'il n'y a aucun ordre. Les cinq premières églises, les cinq premières trompettes, les cinq premiers sauts, ça c'est valable pour tous les temps. Mais ce qui n'est valable que concrètement, de manière incarnée, et collective et universelle pour toute l'Église, c'est que le sixième. Il n'y a pas de cohérence entre, par exemple, la troisième église, le troisième trompette, troisième saut, troisième coupe, etc., dans l'Apocalypse. La seule cohérence qu'on trouve dans l'Apocalypse, le seul bon, c'est le sixième. C'est curieux, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire la même chose, par exemple, pour le quatrième saut, quatrième trompette, vous ne pouvez pas faire la même chose. Vous voyez ? Les choses se rassemblent pour tourner dans la sixième. Du sixième jour au septième jour, vous voyez ? C'est une chose simple. C'est vraiment dans la parole de Dieu qu'on trouve notre nourriture. Le jeudi, aujourd'hui, jour de la nourriture. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de l'Eucharistie. Il faut se nourrir du silence du Père. Donc je vous en supplie, gardons le silence. Même pour aller voir le Sacré-Cœur. Gardons le silence. On se nourrit du silence du Père, c'est sa volonté de tous réaliser le silence d'un amour infini. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Vous voyez, on n'essaye pas de comprendre, on essaye d'entendre. Il faut apprendre l'Apocalypse, hein. Attention, vous voyez, moi je veux bien le faire devant vous, mais je veux bien essayer, quoi. Chapitre 14, verset 14, allez, en avant, en avant. Parce que... c'est Dieu, hein, et nous avec lui, un avec lui, dans quatre, c'est-à-dire dans la croix. Verset 14. C'est beau, ça, c'est chemin de croix. C'est formidable, ça. 14, verset 14, c'est magnifique. Enfin, nous allons pouvoir vivre de la croix. Il était temps. Alors, vous voyez, c'est comment il faut lire. Enfin, comment il faut lire. Non, pas comment il faut lire. Moi, personnellement, comment je me propose de lire. Personnellement. Faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes libre. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche sur laquelle était assis comme un fils d'homme. Et je ne sais pas de comprendre, je m'excuse. J'essaie de l'intégrer, je m'en nourris. Je dévore, ayant sur la tête une couronne d'or. Je le dévore, je ne sais pas le comprendre. Une demi-heure de suite, pour assister à la messe, une demi-heure au moins. Pour une demi-heure de mendication de la parole de Dieu. Pas pour comprendre, pour recevoir. Et pour dévorer, pour faire pénétrer. Et sans s'arrêter, puis un ange autre sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faucille et moissonne. » Car c'est l'heure de moissonner. Raison. Vous voyez, et vous faites ça une demi-heure de suite. Vous voyez, c'est pas. Faut pas essayer de comprendre. Vous pouvez faire un petit travail, comme je vous ai dit. mais il faut surtout se nourrir de la parole de Dieu. C'est Saint Jean qui dit, il y a trois nourritures. Comme disait le Père Nicolas à Montpellier récemment. Il y a trois nourritures. Dans l'évangile de Saint Jean. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de mon papa, de mon père. D'être dans l'amour de mon Père. Et le Père a aimé être caché dans Saint-Joseph. Je suis la vraie nourriture qui mange ma chair et boit mon sang. Et dans le royaume, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a aucune part avec moi dans le royaume de mon Père. Et puis, la parole de Dieu, la parole de Dieu est une vraie nourriture. Essayez de trouver dans l'évangile une quatrième nourriture. Si vous la trouvez, écrivez-nous. Ça fait 2000 ans qu'on la cherche. On n'a pas trouvé. Il y a trois nourritures. Et on se nourrit chacune d'entre elles de la même manière. Peut-être en finir avec l'extra verbum, ça me prendra 5-7 minutes, vous me laissez 7 minutes, et puis vous, si quelqu'un peut, si je dépasse 7 minutes, est-ce que quelqu'un peut me réveiller? De la charité, vous comprenez? On vit de la charité entre nous et tout. C'est les élus dans le ciel. Qu'est-ce qui nous attend au ciel? Ce dont se nourrissaient Marthe et Thérèse. Quand elles se sentaient tout petits, anéantis et impuissants. Arides. Que ça n'allait plus du tout. Vivez ça, être l'âme, toute petite âme, toute anéantie, dans l'âme, pas du tout anéantie des pécheurs. Les pécheurs ne sont pas anéantis, dit on y va, allez hop, on se jette dans les bras de la l'allégresse temporelle, et leur âme n'est pas anéantie du tout. Ils renoncent absolument pas à cet épanouissement terrestre. Qu'on est mal, on peut être une toute petite et on peut être dans leur âme. C'est très beau d'ailleurs ça. Au ciel, ça sera pareil, on sera tout petit, on sera comme une petite souris pour vivre de la gloire de notre prochain. Oui, ma sœur, quand on sera au ciel, vous ne me verrez pas tellement je serai petit pour dégouliner de bonheur. Profitant des délices qui sont les vôtres, et je vous laisserai librement, je serai tellement petit, mais vous ne m'aurez jamais vu aussi petit, et vous ne verrez pas, je serai tout occupé à être toute petite, pour de recevoir les délices que Dieu donne en plénitude de bonheur et de gloire dans le cœur de Bernard. Et lui, alors là, il ne vous verra pas. Parce qu'il sera tout petit, tout petit, tout occupé à vivre de ce que vit l'Immaculée Conception dans sa gloire pour recevoir la même gloire qu'elle, la même. Elle est toute petite, toute petite. Elle est toute admirative, extasiée, ravie de l'Immaculée Conception dans ce que vivra. Ce qu'elle est en train de vivre dans la gloire, côté. C'est vrai. C'est affolant la gloire que le bon Dieu donne à chacun. Au ciel, il y aura la charité fraternelle au ciel. Et si nous vivons de l'espérance dès cette terre, et que nous vivons nos rapports fraternels les uns avec les autres de cette manière, à ce moment-là, on ira au ciel. C'est important de connaître cette doctrine. C'est une doctrine infaillible. Attention, c'est pas de la poésie. C'est pas symbolique. Le salaud qui dit que c'est symbolique, alors là, il n'y aura plus la couleur blanche sur les murs. Moi, j'aime pas ça, hein. Moi j'aime à écraser la tête de l'Antéchrist sur les murs du Christ, et ensanglanter, écraser. Il y en aura pour les chiens qui lécheront. Il est foutu. Il n'a aucun avenir. Dieu a mis la haine dans notre cœur, c'est pour qu'on écrase le mal. C'est pour la haine. On doit avoir de la haine, du dégoût pour le mal. Le plus terrible qui soit, pour nous, pas pour les autres. Hein. Chacun sera riche de la richesse de tous. Chacun tressaillira du bonheur de chacun. Et de même que la création d'un nouveau soleil doublerait les feux qui embrasent l'air, ainsi chaque nouveau soleil de la cité de Dieu agrandira de toute sa félicité, de toute sa gloire, la mesure de notre propre béatitude. Et de même encore que des miroirs mis en regard les uns des autres ne s'appauvrissent pas par l'émission mutuelle de leurs rayons, mais par leurs images. Mais les images se multiplient. Et chacun de ces miroirs réfléchit à son foyer la lumière et les objets dépeints au foyer de tous. Ainsi chaque saint réfléchira sur tous les autres le rayonnement de ses clartés. L'apôtre réfléchira sur l'ange la grâce de la parole qu'il a reçue. C'est vrai, les séraphins ont une gloire qu'on ne peut pas imaginer puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la nature. Un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer nous puisqu'on ne connaît même pas leur nature. Et on en recevra la béatitude, la charité avec les anges. Et Jésus aussi, Jésus, c'est notre frère au ciel. La béatitude, quand on verra dans le cœur glorieux de Jésus, c'est extraverbum. Intraverbum, lumière de gloire, c'est le Verbe, c'est le Père, c'est l'Esprit Saint. C'est vrai. Les anges, le prophète communiquera les béatitudes dont les autres n'auront aucun sens, pas moins le martyr par exemple. Il réfléchira sur le martyr, la grâce, la gloire, la profusion, la splendeur de ses visions du ciel, de Dieu lui-même. Et le martyr couronnera le prophète de ses palmes et de ses trophées. C'est une manière de parler, c'est vrai, mais vous voyez, les beautés et les grâces immaculées de la Vierge se réfléchiront sur le visage du pénitent. Vous voyez, si j'ai une splendeur. Comme je dis toujours, hein, il y a deux liqueurs, vous voyez, deux saints formidables. La chartreuse, la liqueur de la chartreuse, c'est Chartreux qui l'ont fait, Saint Bruno. La sainteté, si vous voulez goûter déjà la saveur, l'odeur, l'ivresse, prenez de la chartreuse, elle est bleue. C'est petit, ça coûte cher. Hein. C'est surpayé, ouais, c'est vrai. C'est bon, c'est bon. C'est bon. souvent les gens m'apportent du vin à l'Ermitage, c'est souvent de la piquette. Hein. Jamais une personne n'a eu l'idée de m'apporter. Saint Bernard, c'est vraiment extraordinaire, Saint Bernard. La Lérina. Oh. C'est fait avec des mandarines, c'est un secret, hein, mais la Lérina. Oh, la Lérina, mon Dieu, que c'est bon. C'est jaune. Et quand Saint Bernard et Saint Bruno au ciel se communiqueront mutuellement, ils auront chacun la lumière de gloire. Et cette lumière de gloire, chacun, dans leur cœur uni, donnera une troisième liqueur à chacun des deux, quoi. Bleu, jaune, verte, mais incomparablement plus enivrante et plus délicieuse que chacune des deux. Et ceci continuellement, avec tous les autres saints. C'est vrai. Le prophète, les beautés et les grâces immaculées de la Vierge se réfléchiront sur le visage du pénitent et de l'anachorète meurtri et dévasté par les jeûnes et les macérations. Et le pécheur converti fera ressortir avec plus d'éclat le mérite et les prérogatives de l'innocence conservée dans son intégrité. Plus aucune compétition ni envie. Oui, évidemment qu'il n'y aura pas de jalousie en disant « Ah, le salaud, il a ça, moi je sais pas. » Au contraire, « Ah, là, génial !» Mais ici sur la terre, quand on est caju, quand on est chrétien, tu dis, oh, lui, toutes les grâces qu'il a, moi je sais pas. Enfin, c'est idiot ça. Ah, si je pouvais avoir les grâces qu'il a, mais non! S'il les a, elles sont à toi. Il te les donne. Ça, la charité. Dit saint Augustin, oui, parce que les joies du ciel dans l'extraverbum sont des joies pures, elles sont des joies durables. Figurez-vous, dans le Verbe de Dieu illuminé, des infinies clartés, les saints voient les événements qui s'accompliront dans 1000 ans aussi nettement que ceux qui se sont accomplis il y a 1000 siècles. À chaque instant, dit saint Augustin, ils éprouvent comme un sentiment de joie infinie. À chaque instant, ils absorbent autant qu'il est permis à des êtres créés la capacité de la vertu divine. Ça, c'est un autre aspect de la béatitude ad extra. C'est, il y a aussi tout ce qui s'est passé quand il y avait les dinosaures, par exemple. Tout ce que Dieu a fait. Et tout l'amour que Dieu y a mis, cet instant-là, il sera au ciel dans l'instant éternel. Et on va en vivre. Mais à l'intérieur, la béatitude jusque dans notre chair. Et tous les instants ainsi, il y a une plénitude d'amour à l'intérieur des corps célestes, à l'intérieur des corps créés, de notre univers et des vivants. À chaque fois, une plénitude d'amour. Et donc, au ciel, dans notre corps ressuscité. C'est le corps qui est récepteur de ça. On vivra de ça. À chaque instant, dit saint Augustin, ils éprouvent comme un sentiment de joie infinie. Tous ces instants leur donnent une joie infinie, mais chaque instant il est présent. Donc, tu te rends compte le nombre d'instants qu'il y a eu dans la création. C'est fou, quoi. Et à chaque fois, un bonheur infini de Dieu de se donner à travers ça. Ses ultimes préparations et dans son instant éternel de gloire. À chaque instant, ils absorbent autant qu'il est permis à des êtres créés la capacité de la vertu divine de se rendre présente à toutes choses en les créant. À chaque instant, l'éternité leur fait sentir le poids accumulé de ses ivresses, de ses délectations et de ses gloires. Deus totus simul delectat. Vous voyez, c'est pas du tout une invention. Deus erit in memorie plenitudo eternitatis. Ah, vous voyez. Eh oui, un jour, saint Augustin retraçait à son peuple d'Hippone les merveilles de la cité de Dieu. Il le faisait d'une voix pénétrée et émue avec cette éloquence d'or nourrie à la source des Écritures et qui faisait croire que c'était un ange qui parlait et non un habitant de la terre. L'assemblée était impressionnée. Elle se sentait comme transportée à ces fêtes de l'éternité dont on lui traçait une si puissante peinture. Elle avait comme une vision de ce jour où le Seigneur orne le front des fidèles d'un laurier inflétrissable. Tout à coup, son émotion fut si forte qu'elle éclata en gémissement, en cri d'admiration. « Ah, mais c'est fou, quoi !» En larmes qui coulaient de tous ses yeux. Ça, c'est joli, ça. En larmes qui coulaient de tous ses yeux. On oublia le respect dû à la majesté de l'enceinte sacrée. Les gémissements, vous rendez compte? Saint Augustin, gémissements dans la cathédrale. On oublia le respect, vous voyez? On respectait plus le sacré. On était dans le ciel. On respectait plus le sacré. On était dans le ciel. Et le silence commandé à la présence de par la présence de Dieu dans l'Église et la présence de l'orateur. Et chacun appelait tout haut ce jour où, loin de toute affliction, il boirait. « Oh, mais alors faut qu'il vienne !» Tout le monde commençait à hurler. Et tout le monde pleurait. « Oh, on n'a pas respecté la liturgie. » Oui, assez joli. Le silence commandé, ça, je ne me rappelais pas d'ailleurs ça. Et chacun appelait tout haut ce jour où, loin de toute affliction, il boirait à l'entrée aux eaux de la vérité, de la vie. Chacun tremblait, tout tremblant, frémissant, tremendum, fascinendum. Que vaincu par sa faiblesse, égaré par ses séductions, il ne vint être frustré de la vision bienheureuse. De toutes parts, dans le lieu saint, retentissait, de toutes parts. Retentissait ses paroles. Oh ciel, oh Seigneur, mais vite, serais-je assez insensé pour te préférer les plaisirs d'une fortune d'un jour? Qui ne consentirait à t'acheter au prix des sacrifices et des travaux les plus durs? Augustin, interrompu par ses acclamations produites de toutes parts, ses soupirs, ses gémissements étonnés de l'effet produit par la parole de Dieu, n'en était pas moins ému que l'assemblée lui-même. Il voulait poursuivre, à continuer son sermon et le tableau qu'il avait entrepris de la Jérusalem céleste, mais les sanglots de son auditoire, son propre attendrissement, étouffèrent sa voix. Ses larmes mêlées, celles de son peuple, formèrent comme un fleuve pour pleurer les tristesses de l'exil où nous nous trouvions et l'éloignement de la patrie bien-aimée qui était déjà là. Ô saint pontife que je voudrais avoir dans mon cœur et sur mes lèvres, cette odeur du ciel sur la terre. Ce livre est admirable. Quand Dieu voudra.